Le génie du christianisme. Une émission d'Emeline Picard.
Le génie du christianisme vous propose aujourd'hui l'épreuve de l'existence de Dieu. Et pour vous prouver l'existence de Dieu, ce qui n'est pas une mince affaire, tout de même, nous recevons aujourd'hui Denis Moreau. Bonjour Denis.
Bonjour Emeline.
Alors, vous êtes philosophe, alors agrégé, docteur en philosophie, professeur de philosophie à l'Université de Nantes, et surtout auteur d'un certain nombre d'ouvrages qui nous aident tous, alors catholiques, chrétiens et grand public, à réfléchir. Comment peut-on être catholique? Des ouvrages sur la mort, sur la vie. Et en 2019, y a-t-il une philosophie chrétienne parue à point seuil dans la collection Sagesse, où nous découvrons que nous pouvons être chrétiens et rationnels, chrétiens et raisonnables, que nous ne sommes pas des uluberlus en croyant en Dieu. Est-ce à dire que la philosophie peut nous aider à rendre compte de ce qui paraît relever finalement de la confiance ou, pour certains, de l'idiotie la plus complète de croire qu'il existe un Dieu ?
Oui, alors en tout cas, historiquement, je le pense, et historiquement, elle a eu cette prétention. Hein, et donc, c'est la... Alors, c'est la fameuse question, mais on va prendre quelques précautions, des preuves de l'existence de Dieu. Prends tout de suite un petit... voilà, on va décortiquer l'expression. Il y a le mot preuve. Alors preuve, tout le monde a dans l'esprit sans doute le sens mathématique de la notion de preuve, donc démonstration contraignante qui amène à un résultat qu'on ne peut pas contester. Vous voyez, si vous pensez que 2 plus 2 ça fait 5, je vous prends, on discute 5 minutes, puis je vous prouverai que ça fait 4 et c'est moi qui ai raison et on sera d'accord tous les deux. Bon, ça c'est le premier sens de preuve.
C'est très contraignant.
C'est très contraignant, ça donne des résultats absolument certains. En français, preuve, c'est un second sens, ça veut dire indice. Vous voyez, si je dis à cette bague que je t'offre est une preuve de mon amour, c'est un indice que je t'aime, mais on peut éventuellement envisager que je sois motivé par d'autres sentiments que par l'amour.
Tout à fait. Voilà. Donc, plus toute, comment dire, toute cette littérature et tous ces films qui nous ont familiarisés avec le principe de preuve dans les séries policières,
oui, voilà,
qui est très grand public, mais qui relève quand même aussi d'une démarche un petit peu de réflexion.
Vous voyez, preuve, là, c'est lancer une enquête et puis essayer d'arriver à des conclusions, peut-être pas complètement assurées, mais pas non plus totalement incertaines.
Oui, parce qu'au final, c'est la vie d'un homme ou d'une femme, une condamnation qui est à la clé.
C'est compliqué de juger. Hein, donc, voilà. Donc, preuve, ça fait aussi dire indice, argument en faveur d'eux. Alors, vous voyez, c'est peut-être moi, en tout cas, plus en ce sens-là que j'entends preuve de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, je le dis trivialement, mais s'il existait des arguments contraignants pour mettre tout le monde d'accord sur l'existence de Dieu, bah, ça se saurait.
Et j'allais peut-être vous interroger, puisqu'on est aussi des chrétiens philosophes avant d'être des philosophes chrétiens, enfin, on pourra discuter sur ces deux, sur ces termes. Est-ce que Dieu lui-même, en tout cas dans le cadre du christianisme qui veut une relation d'amour, peut obligé par la raison, par des raisons contraignantes et mathématiques, à croire dans son existence? Est-ce que ce n'est pas une manière de restreindre la liberté?
Oui, alors j'entends
oui,
cet argument.
Peut-être un argument.
J'entends cet argument. Alors, j'allais dire malheureusement, le Saint-Concile Vatican I a décidé que l'existence de Dieu pouvait être établie par la raison, donc ça fait partie de l'agenda d'un catholique de référence. Mais peut-être le Saint-Concile est-il établi. Et puis, alors, elle est un peu vite. Et puis, oui, une autre question, c'est, enfin, pour raffiner un petit peu, quand on a dit Dieu existe, les gens ont l'impression qu'on a dit un truc énorme. Mais en fait, pas vrai, parce que des dieux sur le marché, il y en a des centaines. Donc la question, c'est Dieu existe, mais lequel ?
Lequel ?
Voilà. Et puis, troisième remarque, oui, Dieu, c'est comme n'importe... Enfin, j'en parle en philosophe, donc c'est toujours un peu désacralisant, la philosophie, mais un objet, c'est une collection de propriétés. Vous voyez, par exemple, moi, je fais 1m74, je pèse 63 kilos, je suis brun, c'est des choses que vous savez de moi, puisqu'on est face à face en discutant, et puis j'ai d'autres propriétés qui viennent d'autres sources d'informations que vous connaissez pas. Par exemple, si vous rencontriez mes enfants ce soir, ils vous diraient des trucs sur moi, et donc vous sauriez d'autres choses. Donc,
on est presque dans l'enquête policière qu'on évoquait
voilà,
au départ.
Mais donc un objet, c'est une collection de propriétés qui viennent de différentes sources d'informations. Alors on pourrait dire Dieu, c'est un peu pareil. Vous voyez, je vous donne des propriétés de Dieu. Il est éternel, infini, tout puissant, amour, juge à la fin des temps, etc. Peut-être que dans ces propriétés, il y en a certaines qui peuvent être atteintes par la raison.
D'accord.
Et d'autres pas. Et d'autres, c'est la révélation qui nous les apporte. Moi, je pense qu'il y a une bonne raison de penser qu'il y a une cause première du monde. avec ça, je pense que ma raison me fournit des arguments. Donc ça serait l'aspect créateur de Dieu, si on veut. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse démontrer que Dieu est amour. Ça, c'est la Bible qui nous l'apprend.
Donc on est dans l'ordre de la révélation. Et à vous écouter, là aussi, je mobilise d'anciens, très anciens souvenirs de Terminal. La cause première, ce n'est pas forcément chrétien. Vous avez des philosophes antiques qui, rationnellement, ont fait cette démonstration, j'allais dire, à l'envers, en essayant de comprendre d'où viennent les choses. Et sont arrivés à cette idée, alors peut-être pas d'un Dieu créateur, là, votre expertise nous aidera, mais en tout cas de quelque chose de premier qui explique tout le reste.
Oui, premier moteur, comme on dit, le premier. Alors, oui, tout à fait. Mais vous voyez, donc, si j'essaie de récapituler un petit peu, alors vous faites, on fait allusion là en ce moment à un argument en faveur de l'existence de Dieu, il y en a de différentes sortes, hein, il y en a, mais c'est ceux qu'utilise saint Thomas d'Aquin dans la Somme de Théologie. Alors, petite remarque de lexique, quand il parle de ses arguments dans la Somme de Théologie, saint Thomas d'Aquin appelle pas ça des voies. En latin, il appelle ça des vias et des chemins. Donc, des chemins vers l'existence de Dieu. Voilà, c'est peut-être un peu moins brutal que preuve, comme idée. Et donc, mais ces arguments, saint Thomas alors, les retravaille avec son génie propre, leur donne une nouvelle formulation, mais il les reprend d'Aristote, hein, donc un philosophe antique. Alors, ils sont très simples, ces arguments. Saint Thomas en propose 5 déclinaisons, mais on peut en garder la plus simple. C'est l'idée que je suis causé par mes parents, eux-mêmes causés par mes grands-parents, eux-mêmes causés par mes arrière-grands-parents, et saint Thomas d'Aquin dit, bon, on peut régresser comme ça, alors, ou pas très longtemps, ou très 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 longtemps, dans la série des causes, mais c'est une exigence de la raison de penser qu'il existe, au début de la série, une première cause elle-même non causée, qui a lancé le mouvement. Alors, c'est un argument, vous voyez, intuitivement, il est assez bon. Hein, je prends une analogie, imaginez, vous êtes... sur une autoroute ou sur le périphérique d'une grande ville. Alors, et puis, on vous emboutit par un tout petit accident, rien de grave, hein, de la tôle. On vous emboutit par derrière, vous sortez, puis vous dites à celui qui vous emboutit, bon, va falloir que l'assurance paye. Et le gars vous dit, ah non, c'est pas moi, en fait, j'ai été embouti par derrière, puis ça m'a poussé. Et donc, vous allez voir la voiture derrière, vous dites, ah mais il va falloir que ce soit vous qui payez. Le type vous dit, ah ben non, c'est pas moi, c'est la voiture derrière. Etc. Vous voyez bien qu'intuitivement, vous avez envie que quelqu'un paye. Et donc, vous postulez bien l'existence d'un, on va dire, un premier caramboleur, lui-même non carambolé, qui a lancé le mouvement. Donc c'est quand même un argument qui est assez fort. Alors il n'est pas indiscutable évidemment, mais...
Mais il y a une forme d'évidence, là aussi, de la réalité de ce qu'on est en train de décrire, qui permet, j'allais dire encore une fois, un chrétien ou non chrétien, de se dire il y a quand même quelque chose à l'initial. Est-ce que ça pourrait expliquer, alors c'est peut-être une petite parenthèse qu'on va refermer rapidement, aussi la démarche des scientifiques, je pense en particulier des physiciens qui se sont mis à la recherche aussi du point de départ, qui sont arrivés à faire cette espèce de régression pour arriver à cette idée de Big Bang, qui d'ailleurs était, si mes souvenirs sont bons...
D'un prêtre. Hein,
prêtre.
Enfin, c'est lui qui l'abbé Lemaître, qui est le premier à formuler cette théorie. Oui, alors, oui...
Et qui, dans mon souvenir, en historienne, j'avais trouvé ça très amusant, s'est fait, pardonnez-moi, agonir d'injures par tous ses collègues en disant, bah, c'est normal que tu penses au Big Bang, parce que toi, t'es un prêtre, donc t'es chrétien, donc ton idée, c'est complètement farfelu, il faut vraiment être chrétien pour penser à ça.
Oui,
donc, vous voyez,
de... Alors, on pourrait dire, en un sens, c'est un lieu où, si, pour reprendre la façon dont vous le décrivez, mais je ne suis pas sûr que ce soit correct.
Je ne suis pas un bon élève, je suis tout à fait d'accord avec vous.
La foi chrétienne a nourri la raison, lui a indiqué une piste qu'elle a suivie. Moi, je suis un petit peu méfiant vis-à-vis de ce que vous évoquez là, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Hein. Le concordisme, ça consiste à vouloir à tout prix faire coïncider, donner de la science et donner de la révélation chrétienne. Alors, d'abord, je ne crois pas que le Big Bang, ça implique un commencement absolu. Le Big Bang, ça nous dit dans quel état était notre univers, un tout petit peu avant un commencement auquel on n'arrive pas à régresser, d'accord ? Donc, ça ne parle pas de cause première, ça parle d'un état initial, mais qu'est-ce qui a déclenché l'état initial ?
Donc, on retrouve finalement la démarche philosophique.
Donc, on retrouve à ce moment-là la démarche philosophique, mais on change de plan, vous voyez ? On n'est plus dans le labo de physique, on est à la faculté de philosophie. c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, alors... autre remarque, hein, vous savez que un peu paradoxalement, surtout dans ces choses d'astrophysique très compliquées, et ça, la science, ça change tout le temps. On a l'impression que la science, c'est la vérité, et ça, et en fait, non, c'est des hypothèses qui varient. Et donc, quand le Big Bang a été formulé et commencé à se diffuser un petit peu dans les années 1950, il y a effectivement plein de théologiens qui ont crié « Youpi, youpi, c'est la Genèse » et tout ça. Moi, je serais un peu méfiant parce que le jour où on va nous expliquer que finalement le Big Bang, c'est faux, ou qu'il y a mieux, tous les gens qui ont coordonné la théologie au Big Bang vont dire « Ouh là là, ma théologie s'effondre. Donc moi, je serais un peu... Alors, je suis surtout pas en train de vous dire que science et foi s'opposent. Je suis convaincu que ce sont deux modes d'accès à la vérité. Et donc, sur le fond, moi, je suis vraiment convaincu du profond accord de la science et de la foi. En revanche, vouloir les faire concorder point par point en permanence tout le temps, ça me paraît un peu risqué et un peu vain.
Finalement, et c'est très important ce que vous nous proposez, revenir au chemin proposé par saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire utiliser la philosophie, notre raison, sans forcément essayer d'utiliser des vérités qui sont effectivement éphémères, comme les vérités scientifiques, parce que voilà, la science évolue tout autant, permet peut-être de manière beaucoup plus sûre de rendre compte de notre foi et de rendre compte, en l'occurrence ici, de la possibilité logique de l'existence de Dieu, si oui. Je suis un peu votre démonstration.
Oui, enfin, ça permet de montrer que l'existence de Dieu est une hypothèse en faveur de laquelle il y a un certain nombre de bons arguments. Alors, il ne faut pas oublier, parce que les gens qui ne croient pas en Dieu ne sont pas des imbéciles, qu'il y a aussi des bons arguments contre l'existence de Dieu. Pour n'en citer qu'un, celui que tout le monde a en tête, c'est l'existence du mal. Hein. Voilà, c'est un argument très fort contre l'existence de Dieu. Donc, mais vous voyez, c'est comme ça la vie. Hein. Quand on est face à une thèse, il y a des arguments pour, des arguments contre, et puis les gens les pondèrent différemment. Certains jugent que les arguments pour sont plus forts que les arguments contre, et ça fait des gens qui pensent que Dieu existe. D'autres, et ça peut être tout à fait légitime, pensent à l'inverse, et ça fait des gens qui pensent que Dieu n'existe pas. Et puis, bah, chacun fait ses choix, et on avance comme on peut. Mais...
Nous faisons de la philosophie, peut-être philosophons-nous, grâce à Denis Moreau sur les questions de l'existence de Dieu. Alors, non pas prouver, j'allais dire, de manière mathématique ou physique, mais vraiment dans ce chemin de réflexion proposé par les philosophes chrétiens ou les chrétiens philosophes. Alors, vous avez abordé dans la première partie de l'émission une des preuves, ou plus exactement un des chemins proposés par saint Thomas d'Aquin dans sa tome théologique sur la cause première. J'imagine que c'est un débat, alors évidemment entre non-chrétiens et chrétiens, mais même à l'intérieur de la sphère chrétienne et des philosophes, il y a certainement d'autres preuves de l'existence de Dieu qui ont été débattues.
Oui, oui. Alors, synthétiquement, il y en a trois genres. Alors, je vais dire des gros mots. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est le philosophe Kant du 18e siècle, non, mais qui a proposé une classification assez claire des preuves de l'existence de Dieu. Donc,
c'est vraiment très allemand. On met des listes, on classe. Ou alors je suis dans le stéréotype du philosophie allemand.
Je trouve ça très philosophique.
Très philosophique. Mais les Allemands ont un esprit philosophique. Alors allons-y.
Non, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que Kant refusait ces arguments, il les considérait comme invalides. Et donc il leur a collé des noms pas très appétissants. vous savez, quand on n'aime pas quelqu'un, on lui donne une étiquette.
Oui,
un peu.
Voilà, des surnoms très.
Kant a mis des mots qui sont commodes pour se retrouver, mais qui peuvent un peu faire effet de repoussoir. Donc la preuve dont on a parlé avant la cause, là, qui consiste à régresser à une première cause. Qui consiste à régresser à une première cause, Kant a proposé d'appeler ça l'argument cosmologique. Voilà, bon, d'après. Alors, il y a des autres arguments qu'il appelle physico-théologiques. Alors, j'explique, physis en grec, c'est la nature, théos, c'est Dieu. Donc, c'est les arguments qui consistent à partir d'un certain état remarquable de la nature et à remonter à Dieu comme à l'explication de cet état. Je vais prendre des exemples, trois exemples. Une version esthétique de cet argument, ça consiste à dire la nature c'est beau, donc il faut un grand artiste. Voilà.
Qui ne peut être que Dieu.
Qui ne peut être que... Bah,
ou qu'un Dieu, en tout cas.
Qu'un Dieu, voilà. D'accord. Alors ça, cette version, bon, enfin, vous voyez, elle est respectable. Qui ne sait pas poser la question de Dieu devant un beau coucher de soleil, voilà. mais bon, elle a ses limites parce que le monde n'est pas que beau, quand même.
Voilà.
Peut-être un peu plus solide. C'est des choses qui ont eu beaucoup de succès au XVIIe, XVIIIe siècle, quand l'invention du microscope a permis de découvrir la complexité extraordinaire des organismes. Vous voyez, c'est un truc, on n'y pense pas. Jusqu'à XVIIe siècle, ce qu'on sait du monde, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. C'est tout.
Exact.
Et simultanément, on invente le télescope... Et la lunette astronomique, le microscope, pardon, et la lunette astronomique. Et donc, d'un seul coup, il y a une espèce d'explosion des coordonnées du visible.
Ah oui, ça a dû être un choc, une vraie révolution.
Ouais, alors, il y a un fragment dans les pensées de Pascal, oui. Le texte s'appelle Les deux infinis, là, qui prend acte de cette espèce de révolution. Et on sent que ça, quand on lit Pascal, on voit que ça les a secoués, hein, c'était compliqué. Et donc, au XVIIe siècle, assez rapidement, on s'est rendu compte que, une mouche, ou à l'œil nu, on ne voyait pas grand-chose, c'était un organisme d'une complexité, d'une finesse. Et donc là, il y a eu des arguments. Pour ces automates ou ces machines extraordinairement perfectionnées, il faut un grand architecte. Donc, pendant 150 ans, y compris quelqu'un comme Voltaire, qu'on ne peut pas soupçonner de mondieuserie, reçoit cet argument. Hein, voilà. Alors, c'est un argument. Il a été mis à mal, sans doute, ou affaibli par la découverte de la théorie de l'évolution, qui fournit une autre explication fort performante à la complexité des organismes par la sélection naturelle. Donc c'est des arguments qui ont eu leur heure de gloire et qui sont un peu affaiblis aujourd'hui. Et puis, une troisième version, ça consiste à partir de l'ordre du cosmos. On se dit, voilà, dans, l'univers n'est pas un chaos. Il y a des règles, il y a des lois, il y a même des gens qui nous expliquent qu'il a fallu un réglage hyper fin, enfin qu'il aurait suffi que quelques-unes des constantes de base de l'univers soient différentes tout petit peu pour que ce soit un chaos total. C'est pas ce qui s'est passé. Et donc là, on postule l'existence d'un grand metteur d'ordre. Alors, un grand metteur d'ordre, en latin, quelqu'un qui met de l'ordre, ça se dit un ordinator.
Ah.
Voilà. Et donc ça, c'est un truc rigolo. Donc c'est le mot qu'a donné ordinateur. Et ça, ça a été dans les années 1950 quand IBM a commencé à commercialiser en France des nouvelles machines qui classaient de l'information. On a fait ce qu'on fait toujours en France. Il y a une commission qui s'est réunie pour décider de trouver un nom à ces machines. Alors ont été proposées, je ne sais plus quoi, machine processionnelle, congesteur. Enfin, et c'est un prof de latin à la Sorbonne, M. Perret, qui a dit « Ah, mais chez Saint-Augustin, notamment, quelque chose qui met de l'ordre. » Alors pour Saint-Augustin, c'est Dieu. On appelle ça ordinateur. Et donc c'est pour ça qu'on appelle l'ordinateur les machines. Vous voyez, c'est un concept qui est descendu du ciel sur la terre.
Et j'étais en train de me dire qu'on va tous regarder maintenant nos ordinateurs de manière extrêmement différente, en disant finalement, ça vient à la fois du latin et de Dieu, c'est très intéressant.
Bel exemple de sécularisation, on va dire. Et donc, ça fait une troisième forme d'argument, alors qui est encore défendu. Là, on arrive à ce point où ce télescope philosophie et cosmologie, il y a encore quelques astrophysiciens contemporains qui pensent que l'ordre de l'univers bien compris fait signe vers une intelligence créatrice.
D'accord, donc là, on est plutôt dans l'ordre du signe que de la preuve mathématique absolue, contraignante, qu'on évoquait
Pour moi, oui, mais il y a des gens un peu plus catégoriques que moi qui vous diront que c'est contraignant et qu'il faut être un parfait imbécile pour penser que Dieu n'existe pas. Moi, c'est quelque chose que je me refuse à penser, ne serait-ce que par respect pour tous mes amis athées.
Athées, et qui ne sont pas des imbéciles, et qui font aussi fonctionner leur raison dans ce débat très enrichissant, parce que ça nous oblige, nous chrétiens, finalement, à travailler, et comment dire, à réfléchir. Alors, Emmanuel Kant, trois grandes catégories, si vous, d'une certaine manière, de preuve d'existence de Dieu. Est-ce que depuis, des philosophes se sont réattaqués au problème en essayant d'inventer peut-être trois autres, enfin, au-delà de ces trois voies, de ces trois preuves, d'autres moyens, finalement, de prouver l'existence de Dieu? Ou est-ce que finalement, on tourne en rond et on a toujours ces trois éléments qui reviennent en boucle?
Alors, si je récapitule, j'avais dit trois chez Kant, on n'en a parlé que de deux pour le moment. On a parlé de la cosmologie
et
de la physico-théologique.
Et puis il nous manque la troisième.
Donc, il manque la troisième. Alors la troisième, elle a un mot encore moins appétissant, c'est l'ontologique.
Oh là là là.
Alors, c'est Kant qui l'appelle comme ça, à nouveau.
Oui, mais on a bien compris qu'il ne les aimait pas et qu'il les rend les plus moins attractifs possible.
Elle a été inventée, c'est pas si souvent en histoire de la philosophie qu'il y a un argument qui surgit comme comme ça. Alors, elle a été inventée par Saint Anselme de Canterbury au XIe siècle. Donc voilà. Mais elle a été reprise depuis par Descartes, par Hegel, par de grands penseurs. Et alors, celle-là, je vais vous la synthétiser en trois phrases. Elle a un aspect tour de passe-passe.
donc Saint Anselme de Canterbury, nos amis anglais sont des magiciens.
Voilà.
Si
alors là, vous avez, alors, eh bien. On va se donner une définition de Dieu, c'est l'être à qui rien ne manque.
D'accord.
C'est une bonne première... définition de Dieu, ça va, ça, vous êtes d'accord ?
Je vous suis, là pour l'instant, va bien.
Il fallait râler, c'est trop tard.
J'ai l'impression que je me suis fait avoir.
Oui, voilà, c'est pour ça que c'est un côté tour de passe-passe. S'il n'existe pas, il lui manque sens.
D'accord, je commence à voir le tour de passe-passe.
Et donc, comme on a dit que c'était l'être qui rien ne manque, il a nécessairement l'existence, Dieu existe nécessairement. Alors, ça, c'est agaçant.
Mais c'est presque du jeu de mots, c'est presque du nominalisme, d'une certaine manière. On joue avec les mots et on
Je
provoque un peu, là.
Oui,
j'essaye de m'en sortir parce que je viens de me faire
oui,
penser.
Oui, c'est énervant. Hein.
c'est très énervant.
On fait jaillir l'existence d'un concept. Quoi. Voilà. Ça, c'est pour ça, comme le magicien fait sortir le lapin du chapeau, là, on fait jaillir l'existence d'un concept. Alors, je veux pas trop faire jouer l'argument d'autorité, mais il faut quand même savoir. Alors, saint Thomas d'Aquin n'accepte pas cet argument. Vous voyez, même entre saints, on n'est pas nécessairement d'accord. donc, saint Thomas d'Aquin dit, oui, il y a d'autres arguments de l'existence de Dieu qui sont bons, mais pas celui-là. Mais Descartes, Leibniz... Hegel, Malebranche, du beau
oui,
monde.
Oui, c'est du beau monde philosophique,
beau monde,
quand même.
Dit, si, c'est bon, ça fonctionne. Donc, ça vaut peut-être la peine de surmonter cette espèce de réaction de rejet spontané.
Oui, ou d'amusement,
Voilà, alors après, pour votre seconde question, en fait, là, avec les trois types de preuves qu'on a vues, donc je rappelle les gros noms, hein, cosmologique, physico-théologique, ontologique, on a à peu près cartographié le terrain. À ma connaissance... Vous me demandiez s'il y avait eu des nouveaux arguments.
Voilà, de nouveaux arguments,
non,
ou des nouvelles voies, vraiment.
Eu, non, des nouvelles moutures de ces arguments, des façons de les reformuler. Alors, par exemple, c'est un truc qui a un peu inquiété tout le temps, qui a surpris les gens. Kurt Gödel, c'est sans doute un des plus grands mathématiciens et logiciens du XXe siècle. Quand il est mort, dans ses papiers qu'il avait laissé traîner, on a retrouvé une reformulation de l'argument ontologique où il disait c'est bon. Donc ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit. Et puis,
surtout d'un mathématicien, ouais, dont on a voilà, vu que, ouais, si je reprends le tout début, logicien, en termes de preuves ouais. Contraignantes, que lui dise que c'est bon, c'est voilà, effectivement... Bon, c'est...
Mais ce que vous avez plus, c'est des reformulations, des retravails de ces arguments. Alors par exemple, il y a un grand philosophe anglais, il doit être vieux maintenant, Richard Swinburne, qui a un petit peu traduit en français, on trouve quelques-uns de ses livres, qui a, lui, reformulé les arguments physico-théologiques à partir des données de la science contemporaine, voilà. et qui considère qu'ils sont bons. Alors, un des intérêts de Swinburne, c'est qu'il parle en termes de probabilité. C'est-à-dire, il ne dit pas c'est vrai, c'est faux que Dieu existe, il dit il y a tant de pourcents de chances que Dieu existe. Alors, c'est un peu, je l'avais vu une fois dans un colloque, il a un côté très anglais, pince sans rire, et il nous avait dit qu'un petit sourire en coin devant un parterre daté. En fait, il avait dit à mon avis, il y a 73% de chances que Dieu existe.
L'humour anglais voilà. Et en même temps qui fait réfléchir.
Mais c'était pas,
C'est presque le pari de Pascal, d'une certaine manière, pour reprendre chose. À 73%, ça vaut peut-être le coup de lire la Bible et de suivre la morale.
Oui.
Enfin, je vous titille un peu là.
Pari de Pascal, c'est encore
autre chose.
Au début du pari, Pascal dit ou fait dire à son interlocuteur, puisque c'est un dialogue ce texte, qu'on va laisser tomber les preuves de l'existence de Dieu parce que ça ne marche pas.
D'accord.
Donc chez Pascal, vous voyez, pour prendre les... C'est un grand auteur chrétien, Pascal, ça indiscutablement, qui est très critique vis-à-vis des preuves de l'existence de Dieu. Alors il dit deux choses, il dit parfois ça ne marche pas, ce sont des arguments invalides, puis parfois il dit ça marche mais ça emporte la conviction une demi-heure puis tout le monde les oublie après.
Voilà, et donc ça change pas la réalité, le mode
pari
de vie.
De Pascal, c'est pas irrationnel, mais ça déplace le terrain de l'argumentation, ça consiste à placer le terrain d'argumentation sur la question de l'intérêt bien compris. Alors mais c'est une autre façon de fonder un argument. Pascal, vous savez, de prendre son interlocuteur athée et lui dit bon voilà, il faut que tu choisisses, Dieu existe, de vivre comme si Dieu existait ou si Dieu n'existe pas, puis tu fais ton calcul de probabilité. Alors on fait le petit tableau, c'est plus facile à faire par écrit qu'à l'oral, mais donc je parie, je suis athée, je parie que Dieu n'existe pas, si je gagne qu'il n'existe pas, bah je verse dans le néant à ma mort, si je perds et que Dieu existe, je vais en enfer, c'est coûteux.
Surtout que c'est pour l'éternité.
Voilà, je suis croyant, je fais le pari que Dieu existe, s'il n'existe pas, je perds rien, je verse dans le temps. S'il existe, jackpot, Pascal dit éternité de joie bienheureuse. Et donc, alors oui, ça c'est un argument non plus théorique, mais dans les catégories des philosophes pragmatiques, pour faire le pari de l'existence de Dieu en termes d'intérêt bien compris. Donc là, c'est plus de l'argumentation rationnelle, on pourrait dire c'est de l'argumentation raisonnable.
Rationnelle, raisonnable, en tout cas merci Denis, parce que grâce à vous, on se rend compte qu'un chrétien peut et surtout doit être rationnel, alors de manière pragmatique ou théorique, mais nous avons pu comprendre que l'on peut prouver rationnellement l'existence de Dieu. C'était passionnant, merci infiniment.
Merci, au revoir.
Merci à notre technicien et à la semaine prochaine.